des livres plein les oreilles. Ah, c'est une musique qui met de bonne humeur. Je suis tellement contente qu'on l'ait choisie comme indicatif à cette émission des livres plein les oreilles, animée aujourd'hui encore pour vous par Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. J'ai plein d'invités. Une émission douceur, une émission tendresse, une émission émotion aussi. Je vous le rappelle, même si vous le savez déjà, il n'est jamais... Je pense qu'on ne le dira jamais assez, que vous pouvez bénéficier de toutes ces lectures. Tous les livres dont il est question aujourd'hui à l'émission sont accessibles par vous, pour vous, tout à fait gratuitement via SQLA, donc via BANQ, ici au Québec, à Montréal. Il y a même un numéro de téléphone que je vais vous donner tout doucement, le 1-866-410-0844. Alors aujourd'hui, autour de cette table ou encore au bout du fil, parce que parfois ça n'est pas toujours évident lorsque les gens ne sont pas à Montréal, je vais recevoir tout d'abord Jean-Daniel Aubin qui doit déjà être au bout du fil. C'est la première fois qu'il participe à cette émission pour nous partager sa lecture d'un livre audio. Mylène Moisan est à Québec et nous aurons l'occasion aussi de pouvoir parler ensemble de ce livre formidable qu'elle a écrit et qui s'appelle « Maman est une étoile » suite à une chronique qu'elle avait rédigée pour Le Soleil et pour la presse, une chronique qui avait obtenu un énorme succès avec cette histoire excessivement touchante. Et puis il y aura une chronique de Gérald Saint-Denis qui est également non-voyant. Alors on fait ça aussi par téléphone. Vous savez qu'à toutes les semaines, il va nous arriver avec un sujet. Aujourd'hui, il va nous proposer des livres où il sera question de chats. Donc, douceur féline à l'horizon. Et j'ai déjà avec moi, à côté de moi, je lui dis tout de suite bonjour.
Bonjour Clotilde.
Pascal Monpetit, c'est la voix de Pascal Monpetit que vous entendez. Pascal qui va participer très prochainement au Festival international de littérature et elle va nous parler de ce livre qu'elle va lire en direct à l'occasion de ce festival. Bonjour Jean-Daniel.
Et bonjour Clotilde.
Ah, que je suis contente de vous entendre. D'abord, vous remercier d'avoir accepté. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas toujours facile. Il y a comme une barrière à passer à vous. Mais vous m'avez dit oui tout de suite.
Ah, tout à fait. Oui, j'aime trop la lecture pour dire non.
C'est vrai. Est-ce que vous lisez beaucoup de ces livres audio qu'on met à votre disposition?
Oui, j'en lis énormément. J'en lis peut-être, je vous dirais, deux par semaine.
Ah oui, quand même.
Oui.
Et là, aujourd'hui, pour cette première chronique, appelons-la comme ça, vous avez décidé de nous parler du livre d'une jeune Québécoise. Je vous laisse le soin de l'annoncer, peut-être.
Oui, alors c'est le roman policier de Roxane Bouchard. Nous étions le sel de la mer.
Quel titre, hein?
Ah, mon Dieu, mais c'est évocateur. C'est vraiment... un voyage à travers la baie des Chaleurs en Gaspésie.
OK.
Pour ceux qui ne sont jamais allés, comme moi. Moi, j'ai voyagé beaucoup, mais jamais en Gaspésie. Elle nous y emmène vraiment comme un guide. On y est vraiment. On vit la vie des gens de ce petit village de Catlan. Les couchers de soleil incroyables.
Oui.
L'odeur de la mer, le vent sur le visage. Elle nous fait voir aussi les couchers de soleil incomparables et l'horizon à perte de vue. Donc, l'intrigue est plutôt basée sur une enquête policière. Donc, un des pêcheurs du village, Vidal, trouve dans ses filets de pêche une femme noyée.
OK.
Et l'enquêteur Morales, qui de Montréal a demandé une mutation pour la Gaspésie.
Ah oui?
Oui. En arrivant, se trouve tout de suite mis... au courant de cette enquête et c'est lui qui va être en charge de l'enquête.
Vous savez pourquoi je souris un peu, c'est que ce Morales, je pense qu'il est mexicain, il a grandi à Longueuil, hein, c'est bien
exactement.
Ça? Et là, il débarque en Gaspésie.
Oui, Morales, c'est tout à fait ça. À l'aube de la cinquantaine, pour lui, c'est le temps de faire le point sur sa vie de policier, sa vie de couple, sa vie d'homme.
Ouais.
Et au même moment, Catherine, qui elle aussi est en quête d'une recherche d'identité en cherchant sa mère biologique, se retrouve elle aussi à Catlin pour trouver sa mère, qui finalement va être dans le filet du pêcheur. Alors c'est une histoire vraiment incroyable où les villageois ont tous un personnage. Les personnages sont tous attachants.
Oui, c'est ce qu'on dit. Que d'ailleurs, même les personnages intermédiaires, quoi, ils ont tous leur importance.
Hein. Ah mon Dieu, c'est incroyable. Au fil de la lecture, on les découvre, on s'attache.
Ouais.
Parce qu'au début, ils sont un peu sauvages.
Bourrus, hein? Rustres un peu.
Ah, tout à fait. Ils répondent pas aux questions. Ils veulent pas répondre à Morales. Ils veulent pas répondre à Catherine. Et du coup, Cyril, le plus vieux pêcheur du village, le sage, commence à se lier d'amitié tranquillement avec elle. Donc de là, on va aller un peu plus loin, on va connaître un peu plus les villageois. Y a des personnages vraiment type l'Amérindien.
Ah oui.
Qui j'aurais voulu connaître, l'Amérindien.
Ah oui, hein?
Ouais,
ah oui, ah oui, ah oui.
L'espèce de serveur du snack bar qui semble être la commère du village, qui au fil du temps devient très sympathique aussi. Donc, plus on lit le roman, plus on s'attache à ces personnages et du coup, ça passe très vite. Et comme un roman d'Agatha Christie, chaque chapitre, chaque page, on se fait des histoires, on trouve un nouveau coupable, et jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment un roman qu'il faut vraiment lire jusqu'à la fin. C'est vraiment incroyablement bien écrit, facilement.
Je lisais, Jean-Daniel Aubin, que c'est Marie-Christine Blais dans la presse qu'on a qualifié aussi ce roman de sonore, parce que évidemment, il y a tous les sons de la mer, j'imagine le vent, j'imagine les oiseaux, mais il faut imaginer aussi les sacres, parce qu'ils sont très importants, je crois, et elle disait d'ailleurs un truc, elle disait, cette auteure, Madame Bouchard, elle dit, oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup les sacres, mais pour moi, ce ne sont pas parce que ce sont des sacres, mais parce qu'ils rythment. Elle dit, vous savez, moi, je trouve qu'au Québec, on considère trop souvent que les sacres font partie du joual, alors que moi, je trouve qu'ils rythment notre conversation. Et je me disais que c'est un petit peu pareil dans le sud de la France. Vous savez, quand ils disent à chaque virgule « Oh putain de Kong ben », finalement, ce n'est plus de l'injure, c'est « Oh putain de Kong »,« Oh putain
oui, »,
mais c'est un peu pareil.
C'est du jazz.
Eh oui, j'entends rire, Madame Montpetit.
Oui.
Mais oui. Tout à fait ça, c'est parce que aussi, c'est même pas déplaisant. C'est ce qui rend le livre aussi attachant. Parce qu'en plus, la lectrice qui a une voix incroyable...
Alors, c'était ce que je voulais vous demander. Est-ce que c'était bien lu? C'était...
Ah, c'était incroyable. Elle a une voix, je pense que c'est Louise Senet, en tout cas. Je ne sais pas, c'est la voix de Ami Télé.
OK.
Et elle a une voix incroyable. Elle peut passer d'un français international à la québécoise ou vieux Cyril qui pousse des jurons, qui sacre.
Ah oui, est-ce que c'est celui qui a eu un problème, un accident, puis qui a un petit ésophage, là, qui est rendu gros comme une cartouche de crayon?
Ben,
là.
Et finalement, il y a un problème, il va mourir du cancer.
Aïe, aïe.
Donc, mais elle a la voix rauque quand elle parle pour lui. Vraiment, je pense que la qualité de la lecture fait beaucoup dans les romans adaptés. Je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup en faveur d'un livre plus que d'un autre. Moi, celui-là, non seulement j'ai adoré le roman, j'ai même lu celui qu'elle avait écrit précédemment, qui est Parabole,
oui.
Grâce à ça. Et je dis, chaque fois, l'électrice était incroyable.
Bon, bah écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux, mon ami. Ça, vous m'envoyez absolument ravie. Je voulais vous demander quelque chose, là, tout d'un coup, puis ça m'est comme sorti de l'esprit, mais c'est donc bien épouvantable. Ah oui, voilà. C'est parce qu'à un moment donné, je lisais toujours sous la plume de Marie-Christine Blé, comment est-ce qu'elle en était venue à écrire ce livre? Est-ce que vous le savez? Parce que là, elle l'explique, et je trouve ça tellement, tellement beau. C'est qu'on est en 2005-2006. À ce moment-là, Madame Bouchard, Roxane Bouchard, je rappelle que c'est le nom de l'auteur de ce livre dont nous parlons, nous étions Le sel de la mer. Alors, elle vit un moment charnière. À ce moment-là, elle lance un premier roman qui s'appelait Whisky et Parabole, dont oui. Vous venez de parler. Et puis, au même moment, à l'hiver, lorsque le livre sort, elle se sépare. Et finalement, elle apprend au printemps que ce livre-là reçoit le prestigieux prix Robert Clich, qui est le prix d'un premier roman. Et là, elle dit « Alors, j'ai décidé que j'allais avoir un projet pour l'été, j'allais partir en mer ». Et à ce moment-là, mais attendez, partir en mer, c'est pas juste aller faire de la rame ou aller faire du voilier. Non, non. Elle a suivi des cours. Elle est tombée amoureuse de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Elle a pris aussi une formation en mécanique diesel. Elle s'est engagée sur un équipage vraiment comme marin sur les bateaux de pêche de la Gaspésie. Et elle a ainsi navigué l'hiver en Gaspésie, mais aussi à l'étranger. Et c'est là qu'elle a glané tous ces personnages-là qu'elle a mis dans ce roman. Je trouve ça absolument fascinant. Et ce sont tous des personnages de légende, on les voit vivre, hein. C'est vraiment
oui,
extraordinaire.
Oui, tout à fait. On a vraiment l'impression qu'on le connaît. À la fin de la lecture, on a l'impression qu'elle y a vécu dans ce village de Catelan et qu'elle le connaît personnellement. Elle nous les fait connaître de cette façon-là.
Oui.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est parce que c'est non seulement un roman policier banal, c'est parce qu'on vit à travers ces gens-là.
Oui, et puis il y a beaucoup de poésie, hein? Il y a beaucoup de...
Ben oui, comme Whisky et Parabole, c'est un roman qui est un peu plus poétique encore.
Oui, oui, oui.
Mais c'est ça, on vit à travers les gens, on est avec eux.
En tout cas, Jean-Daniel, si elle cherche un agent de promotion, vous en a trouvé un en votre personne.
Écoutez.
J'espère qu'elle est à l'écoute parce que c'est formidable ce que vous
ben,
dites.
Je ne sais pas, je sais qu'elle fait des recherches présentement pour écrire son nouveau livre qui va être sur la vie des militaires. Donc, c'est...
J'espère qu'elle ne s'est pas engagée.
Non, c'est le courriel qu'elle m'a envoyé. Donc, je ne sais plus où elle est maintenant. Donc, à un moment donné, on va avoir un nouveau livre qui va arriver de Roxane Bouchard. Puis, je vais le lire, ça, c'est certain. Et surtout, si c'est Pascal, mon petit, qui le lit.
C'est une invitation.
C'est une invitation. Mais remarque, moi, je retiens ce nom-là. Hein. Madame Bouchard, Roxane Bouchard, je pense que je l'inviterai à mon show. Et à ce moment-là, moi, je vous fais une promesse. C'est que je vous réinvite, Jean-Daniel. D'accord.
Ah ben, un grand plaisir.
D'accord. Et puis, on va juste se quitter. J'ai mon technicien qui me fait des gros yeux, mais tant pis, ça fait rien. Juste pour vous donner une petite idée de cette écriture. C'est un très, très court extrait du livre où elle dit « Cyril, le fameux Cyril,
oui.
Il disait que la mer était une courte pointe, des morceaux de vagues attachés par des fils de soleil. Il disait qu'elle avalait les histoires du monde et les digérait longuement dans son ventre cobalt pour n'en renvoyer que des reflets déformés. » C'est magnifique. On a juste envie de... Merci beaucoup, parce que c'est un livre que je pense que notre ami Pascal va se le procurer.
Oui.
Moi aussi, Mathieu aussi.
Il faut lire absolument, parce que là, vous m'avez fait passer les frissons. Là. Mais il faut vraiment lire ce livre-là, et c'est vraiment une bonne romancière, en tout cas.
Merci beaucoup, Jean-Daniel Aubin. Je vous promets que je vous rappelle très rapidement. Alors, lisez-en des livres, parce que si vous voulez participer à l'émission, je ne demande que ça.
Ah, je suis là-dessus. J'en lis deux à la fois.
D'accord, d'accord. Alors, je vous embrasse et vous souhaite une belle fin de journée.
Merci, bonne journée.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Et là, de Québec, je vais m'adresser à Mylène Moisan. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Écoutez, je ne suis pas la seule à être très très heureuse chez Vues et Voix et plus spécifiquement à la radio Canal M parce que vous avez un nom qui résonne souvent chez nous parce que non seulement j'anime cette émission, mais j'anime aussi le Grand Magazine qui est une revue de presse que nous offrons tous les matins. Et je dois dire que les papiers de Mylène Moisan sont quasiment, presque, je ne vais pas mentir, presque toujours là.
Ah oui, mais bien heureuse de l'apprendre.
Mais oui, mais ouais. C'est vrai, Mylène, parce que je vois, par exemple, votre périple en Gaspésie, que ce soit ça, mais aussi tous les portraits que vous faites de gens qui ne sont pas ordinaires, qui n'ont rien à vendre, mais qui sont des gens qui existent, et vous faites des gros plans sur eux qui me semblent toujours remplis d'humanité. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait avec cette femme qui s'appelle Joliane, dont vous avez d'abord raconté l'histoire au sein d'une chronique, Joliane Fortier, et puis finalement vous en avez fait un livre. On peut tout de suite dire, parce qu'on ne défleure rien, on l'apprend très rapidement, que c'est une jeune femme qui est atteinte d'un cancer, c'est une jeune maman, c'est une femme amoureuse, très amoureuse, c'est une très belle femme. Mm-hmm. Elle a donc une vie un bonheur tranquille, entre guillemets, heureux, jusqu'au jour où on sent cette petite bosse en dessous le sein. Et là, c'est l'enfer, c'est la dégringolade et c'est finalement la mort. Mais cette femme-là, vous ne la connaissiez pas.
Non, je ne l'ai jamais connue. Moi, j'ai appris son histoire par le père d'une de ses amies, alors qu'elle était à la toute fin de sa vie. Et j'avais contacté son conjoint, Martin Letourneau, et là, évidemment, là, comme c'était les dernières semaines, et il y avait aussi le tournage de l'émission de Chantal Lacroix à ce moment-là, oui. Dont j'ignorais tout, là, en fait. On me parlait de caméra et je savais pas trop à quoi on faisait allusion. Et j'avais tout simplement dit à M. Letourneau de me contacter, à Martin, de me contacter au moment où il le jugerait opportun, où il serait prêt à me parler. Et il m'a contacté 3 semaines après le décès de Joliane. Oh. Donc, c'est une histoire que j'ai toujours racontée par le témoignage de Martin et le livre. Au livre s'est ajouté le témoignage de la mère de Joliane, le témoignage de ses amis, des lettres que certains avaient écrites. Donc, c'est vraiment j'ai vraiment colligé là, un ensemble de documents ou de témoignages qui sont restés, qui lui ont survécu, là aussi les vidéos que Joliane avait filmées d'elle, de ses enfants.
Et ses propres écrits. Et ses propres écrits à elle.
Un journal intime qu'elle avait rédigé dans les 3 derniers mois de sa vie. Un document extrêmement troublant que j'ai lu. Et j'ai énormément pleuré à la lecture de ce document-là parce que c'est vraiment écrit de sa main. C'est souvent des textes qu'elle écrit à ses enfants, des conseils qu'elle leur prodigue, des choses qu'elle leur explique, ses émotions. J'ai eu ce document-là à ma possession pendant quelques jours et je me suis empressée de le retourner à Martin dès la lecture terminée. J'avais une peur bleue de l'égarer, perdre ou qu'il arrive quelque chose à ce document si précieux.
Mais j'ai envie de vous demander, Mylène Moisan, la chronique était déjà très émouvante. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux ici quand elle était sortie dans Le Soleil et très certainement aussi dans La Presse, peut-être, je ne sais pas.
Oui,
mais,
Presse Plus.
Hein, voilà, dans la Presse Plus. Et je me dis, mais pourquoi avoir eu envie de pousser plus loin et de faire passer cette histoire-là, parce que vous en rencontrez tellement de gens, souvent malades, blessés, tout ça. Alors, pourquoi tout d'un coup, cette histoire-là, vous avez eu envie de la raconter un peu plus en détail?
Parce que j'étais restée avec le sentiment, après la chronique, qu'il y avait beaucoup d'autres choses à raconter, qu'il n'y avait pas juste la maladie et la mort, mais la vie de Joliane contenait beaucoup de choses. Vous l'avez dit en introduction, c'était une femme heureuse, c'était une femme qui aimait la vie, qui aimait énormément son travail aussi. C'est un élément qui est extrêmement important pour elle.
Qu'est-ce qu'elle faisait?
Elle était infirmière en psychiatrie.
Ah oui, c'est ça. Oui,
donc, elle aidait les autres. C'était une femme qui était très impliquée, qui pensait beaucoup à ses amis, aux gens dans le besoin. C'était quelqu'un, comme vous aussi, qui était une femme qui était très belle, qui prenait
très
soin d'elle, de son apparence, de sa santé, qui avait aussi, on découvre tout le côté, là, sa joie de vivre, son sens de la fête. Donc, c'était vraiment une personne qui était particulière, même sans le cancer, en fait, parce que les gens qui la croisaient étaient souvent charmé ou même attiré par elle.
Oui.
C'est donc peut-être qu'il y a ça, il y a ça aussi, puis la maladie venant amplifier toute sa joie ou son urgence de vivre a fait que c'était une histoire là, que je trouvais importante de raconter parce que je trouve que beaucoup de personnes, là, souvent on oublie, je m'inclus là-dedans, mais souvent on oublie à quel point chaque journée est un cadeau. Là.
Oui, absolument, absolument, Mylène. Je voudrais aller à la page 62 de votre livre où justement tout est dit. Ils étaient heureux, tellement heureux. Bon, Martin avait repris son boulot, Joliane passait ses journées avec ses deux gars, il courait les clowns, les spectacles, tout ça. Mi-juin, les vacances de la construction approchaient. Alors, donc, on nous raconte tout ça, tout est beau. Et tout d'un coup, dans la phrase d'en dessous, sans changer de paragraphe, sans changer de chapitre, sens-tu quelque chose dans mon sein juste ici, demande-t-elle à Martin. J'ai l'impression qu'il y a un point, quelque chose de bizarre, et c'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Et elle le fait sentir à son chum, qui dit oui, effectivement. Avec ça, elle a des petits seins, parce que elle les appelle ses petits B. C'est ça, exactement. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, et j'allais dire habile, j'aime pas ce terme-là, mais ce que je veux dire, c'est que ça faisait partie de la vie, quoi. Tout va bien, mais on change pas de chapitre à ce moment-là. C'est dans la continuité. Mmh. Oh, ça m'a tellement touchée, ce moment-là, parce que c'est là que ça bascule, finalement. C'est là que ça bascule, et c'est pas là. Et puis, quand on se retrouve chez l'oncologue, à un moment donné, quand il lui apprend, après sa récidive, que... quand il lui annonce d'une façon qui peut sembler tout à fait bête, mais parce que de toute façon, est-ce qu'il y a une bonne façon d'annoncer ça à quelqu'un? Je pense que c'est à la page 107, je suis en train de la retrouver pendant que je vous parle. Et là, on est vraiment dans le dialogue. Le médecin qui lui dit « Je suis contente que tu ne sois pas venue seule », et là, lui dit « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Ton cancer est très agressif. » Patin. Agressif comment ? Tu vas mourir de ton cancer. » Oh ! Il va falloir que tu penses à mettre tes papiers en ordre, ce qu'elle fait. Hein?
Oui, 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 c'est ce qu'elle fait. Et malgré tout ce qu'elle a fait, ça a été même compliqué à la suite de son décès, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Bon, puis elle donne tous ses bijoux un à un à ses amis, parce qu'il faut dire qu'elle a une gang d'amis qui sont toutes plus géniales les unes que les autres. Et il y a un chapitre, à un moment donné, qui est consacré au fait que, malheureusement, il arrive que lorsqu'on est atteint du cancer, les amis s'éloignent. Hein, parce que ça fait peur. Et elle, non. Cette gang-là, là, elles sont vraiment
se sont
très...
serrées les coudes, oui.
Oui, absolument, absolument. Mmh. Et puis, il y a aussi, après sa mort, parce que, bon, vous nous faites vivre les derniers instants lorsqu'elle rentre au centre de soins palliatifs.
Michel Sarrazin à Québec,
oui. Oui, c'est ça. Michel Sarrazin à Québec, qui a l'air d'ailleurs d'un lieu absolument formidable.
Oui, oui, j'y suis allée à quelques reprises et toutes les personnes qui ont accompagné un proche là-bas, malgré le fait qu'on va pour y mourir, là,
oui.
Ça fait quand même de ce moment-là quelque chose de supportable. Et les deuils, je pense, se font mieux de ce que j'en ai constaté là, quand la mort a eu lieu là-bas.
Et ce que... Là où je voudrais aussi insister, puis dire aux gens à qui on fait peut-être peur en ce moment, qui se disent peut-être « Oh là là, ça va être tristouné cette affaire-là », vous réussissez, je ne peux pas dire qu'on prend pas les Kleenex, hein. Moi je vous avouerai que je les ai pris plus d'une fois, mais ce n'est pas larmoyant dans le sens de « Allez, on sort les violons, puis on va en beurrer épais ». Et comment ça s'est passé, vous, quand vous l'avez écrit? J'imagine que ça devait être excessivement douloureux.
C'était très difficile à écrire. Moi, je suis une mère de famille. J'ai deux garçons presque du même âge que ceux de Joliane. J'adore mon travail, j'adore mon chum, j'adore ma maison. Donc, évidemment, c'était difficile pour moi de pas me reconnaître dans une certaine partie là, de la vie de Joliane. Donc, oui, l'écriture était extrêmement... exigeante là, d'un point de vue émotif, mais en même temps, c'est peut-être ce qui m'a permis de l'écrire de cette façon-là, parce que justement, comme je sentais l'émotion, j'avais pas besoin de la décrire ou de l'appuyer ou de la décrire de façon excessive. Là,
mais heureusement.
De toute façon, oui, c'est ça, parce que ça a été une grande préoccupation dans mon écriture. L'histoire était tellement forte et les émotions tellement vives qu'il fallait justement éviter là, de tomber dans de grandes descriptions et de grandes oui. envolées où là, on décrivait la douleur et la oui. douleur, elle se sent. Et je pense qu'en ayant fait ça, chaque personne vit la douleur qu'il a à vivre à travers les faits.
Oui, exactement. Ceux qui n'ont pas connu encore ce genre de choses et ceux qui ont déjà connu ce genre de choses.
Tout à fait. J'ai même une dame qui a acheté ce livre-là. Un vendredi, j'étais au Salon du livre à Québec et elle commençait ses traitements de chimiothérapie le lundi. Mmh. Et elle m'a dit, j'ai besoin de savoir jusqu'où je peux aller et comment je peux y aller pour faire la paix avec ce qui peut m'arriver. Donc, chacun le lit pour une raison qui lui est unique, là, qui lui est personnelle.
Mylène Moisan, en ce moment, on parle beaucoup dans les journaux de surdiagnostic et de surtraitement, surtout en ce qui concerne le traitement du cancer du sein. Je voudrais savoir, au moment où vous avez écrit ce livre-là, est-ce que ça vous traversait l'esprit parfois de vous dire, est-ce qu'on ne l'a pas surtraité finalement? Vous savez, on se pose forcément la question. Bon, évidemment,
dans
à la COP.
Si, je pense que c'est plutôt le contraire parce que ça n'a pas été elle n'avait pas de mammographie préventive. Elle ne faisait pas partie d'un groupe où, justement, un groupe de femmes là, qui ont à chaque année une mammographie. Je pense que c'est plus à ce niveau-là là, qu'on déplore une surutilisation des tests. Mm-hmm. Parce que dans son cas, elle a senti la bosse en
ouais,
juin
ouais.
et elle a fait ses premières démarches là, dans les jours. Ou dans les semaines qui ont suivi auprès des médecins de famille, cliniques. Et sa biopsie, si je ne m'abuse, là, c'était au mois d'août. Et la petite bosse avait la taille d'une petite orange là, rendue.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est extrêmement agressif. Donc, dans son cas, à elle, je crois que, au contraire, là, une détection plus précoce et un traitement plus précoce aurait peut-être là, changé le cours de l'histoire. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas la refaire, mais il y a toujours ce doute-là. Martin Letourneau garde ça aussi, cette espèce de questionnement qui le hante, à savoir si le système de santé avait pris en charge Joliane plus tôt. Est-ce qu'elle serait encore là aujourd'hui?
Et puis, ça finit sur, ma foi, sur l'ouverture, sur le petit gars qui s'en va pour la première fois à l'école avec son gros sac à dos accroché à ses épaules. Le petit Mathias, qui était à la fois fier et triste. En tout cas, c'est une belle ouverture. Et pour nous, là, c'est la fermeture de la première demi-heure de l'émission. Mais Mylène Moisan, je voudrais rappeler le titre de votre livre, Maman est une étoile, que je recommande évidemment à tous nos auditeurs. Je leur recommande aussi de vous lire dans les chroniques dans Le Soleil ou dans la Presse Plus, parce que vous êtes une des rares chroniqueuses à avoir beaucoup d'humanité. Et ça, je vous en remercie d'écrire sur d'autres sujets que l'éternelle politique ou l'éternelle corruption. Ça fait du bien et je vous en remercie infiniment.
Ben, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Où vous êtes, mais vous êtes sur Canal M avec Clotilde Seille et ses invités qui animent pour vous l'émission Des livres plein les oreilles. Et ça va commencer en chanson pour pouvoir inviter quelqu'un que j'adore à venir nous parler de... Oh, on vous le dira plus tard. C'est comme chat.
C'était un chat, c'était un chat, c'était un chat, un plein chat, plein d'argent, chat perçant, si puissant, que dans son, que dans son, que dans son, son harem, toutes les femmes lui disaient, chat, 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 comme on t'aime, mais malgré ses mimi, ses mimi, ses milliards, le pacha, chat, 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 avait bien le cafard, des pépés, des pétroles, il était saturé, car son rêve, c'était de voir pousser le gomme. Devant son papa, c'est un chat. Son palais en toute saison. Mais chaque fois qu'il creux, qu'il creusait des trous-trous pour trou-trou, pour trou-trou, là y tout, pour trouver un si-si, si les dos du pépé, du pétrole jaillissaient aussitôt. Et les sous, les sous-sous, les sourciers, les sorciers voulaient tous des mimis sillonnés. Et le pas, le papa, le pacha, cha-cha-cha, languissait. Car son rêve, c'était de voir pousser le gazon devant son papa, tête en chat, son palais en toute saison.
Bonjour Gérard Saint-Denis.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous connaissiez Monsieur Jean Constantin? C'est pas de la première jeunesse, hein?
Non, non. C'est, je pense que je l'ai déjà entendu.
Ah. Oui.
Mais c'est fort intéressant.
Avec votre immense culture, j'en étais convaincu.
C'est surtout mon intérêt.
Ah, la curiosité. Ah. La curieuse. Les chats, vous aimez les chats?
Oui, j'adore les chats.
En avez-vous?
Je peux vous dire, non, j'en ai pas. Présentement, j'en ai pas. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu plusieurs chats. Et j'ai vécu seul un bout de temps et j'avais un chat qui se couchait. On avait les anciens ordinateurs avec gros, là, petit tachot sur le dessus. Ouais. Il se couchait là-dessus en rond. Et il venait mettre sa patte de temps en temps sur sur ma fenêtre de... Bon, et là, je m'amusais beaucoup.
Oh, oui.
Et ça faisait plaisir à mon ami, comment ça s'appelle, celui qui a fait quand les hommes y vont d'amour, là.
Raymond Lévesque,
il venait manger chez nous, puis il y a pas de chat.
Oui, oui, il venait. Oh, ben dites donc, oui. Ça se place bien dans une conversation, ça?
Non, non, mais il est venu souvent.
C'est vrai?
Oui, il est venu souvent. Et ce cher, on avait beaucoup de plaisir. On restait à Longueuil tous les deux. On était tout près.
Ben oui.
Bon. Mais là, j'ai mis 7-8 livres, 9 livres, je pense.
Oui.
J'ai ramené pour parler des chats. Des chats de toutes les façons.
D'accord.
Et, le premier, c'est Mémoire d'un chat.
D'un chat.
Et c'est surtout... celui-là, je dirais que c'est plutôt une fiction-vérité.
Ah! Okay.
Et c'est le monde des chats. Et il nous est, ça va devenir familier pour les gens. C'est un petit recueil célèbre de chats.
On parle chat là-dedans, hein?
Ah, les chats. On parle des chats beaucoup. Et ça, on retrouve, je vérifie quelque chose.
C'est à l'INCA.
C'est à l'INCA. Et il y a un autre aussi à l'INCA, c'est des chats et des hommes. Oui. Et ça, c'est Patricia Highsmith, que vous connaissez bien comme auteur.
Oui.
Et c'est une personne qui écrit de façon très psychologique. C'est merveilleux. Et je vais vous dire, on lit ça, puis on découvre autre chose que les chats. On découvre.
Ah oui, hein?
Oui. C'est très psychologique.
Bon, puis en plus, des chats et des hommes, c'est
un... nouvelles dont la figure centrale sont des chats.
D'accord.
Okay?
D'accord.
Après ça, il y a eu La sagesse des chats, toujours à l'INCA, avec Julia Delay.
On va l'épeler peut-être, Gérard. D-E-U, je dis, on va l'épeler.
Oui.
Delay, D-E-U-L-E-Y. Voilà.
C'est ça. Et c'est, c'est les chats dans tous ces états, dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, qu'ils soient gracieux, qu'ils soient agiles, qu'ils soient séducteurs, qu'ils soient ambigus, mystérieux,
oui.
Et on les retrouve pareil, magiques des fois. Mm. C'est merveilleux. C'est des animaux qui nous étonnent régulièrement, étonnent de plus en plus.
S'ils ne perdaient pas leurs poils, on les aimerait encore plus.
Oui, c'est vrai. Mais il y en a que ça fatigue plus que d'autres. Moi, ça ne me fatigue pas.
Bon, d'accord.
Il y a aussi, j'en ai retrouvé deux avec AVH. J'ai Monsieur le chat, et qui est avec Monsieur A-L-Y-N, Marc Allen. Oui. Allen, c'est ça que c'est.
Mais il faut expliquer encore en deux petites secondes ce qu'est AVH, s'il vous plaît, parce que les gens ne sont peut-être pas encore très familiers.
Valentin A.U.
Valentin A.U. A.U., ça s'écrit H-A...
A-U, tréma... Hey, j'ai de la mémoire.
Ah ah! Je vous ai poigné, hein?
Pourquoi tu me poignes?
Ben, je vous fais ça parce que je veux que les gens puissent aller voir sur ce site-là où ils peuvent également...
Mais vous avez mis l'adresse, vous, sur...
Oui. Puis on la met encore très régulièrement.
Bon,
mais c'était
donc,
juste pour rappeler.
Voilà. Et s'abonner gratuitement.
Voilà. Et s'ils ont un problème visuel.
C'est très, très important. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choix de livres aussi. Oui. C'est merveilleux. On a ça par téléchargement. Donc, quand ça nous tente, on clique, puis quelques minutes après, 8-10 minutes après, on a le livre, on peut commencer à le lire. Ça, oui. Je trouve ça merveilleux. C'est un des plaisirs, en vieillissant, qui me fait,
oui.
qui me permet d'avoir du plaisir à vieillir.
Ben, oh, que c'est bien dit.
Oui, c'est vrai. Ben, oui. Vieillir, c'est pas toujours facile, mais quand t'es gâté comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Et tu veux pas vieillir.
Mm.
Bon, il y avait celui-là, il y avait l'autre aussi, le journal d'un chat, je vous l'ai dit, le journal d'un chat. Après ça, il y a les chats et leur culture. Ça, c'est on revient au SQLA.
Au SQLA, ici.
Et c'est Marshall Thomas.
Mm-hmm.
Et ça, c'est elle, c'est une personne, c'est zoologiste, anthropologue. Cette Élisabeth, elle nous le présente, le chat, mais d'une façon qu'on n'est pas habitué de l'entendre parler. Ça fait changement. Ça nous surprend. Ça nous émerveille même.
Mais d'ailleurs, c'est la narratrice hein, qui est une chatte hein, et qui relate, voilà, c'est ça, toutes ses aventures, toutes ses tribulations, notamment dans une déchetterie. Il semble qu'une petite chatte dans une déchetterie.
Et l'histoire et légende, mm-hmm. encore au SQLA, par Bobis, B-O-B-I-S.
S, oui, Laurent, Lorraine Bobis.
Laurent, L-O-R-E-N, pas le T, Laurent Bobis.
Au SQLA.
C'est assez spécial. C'est un livre qu'on lit rapidement, mais qui va vous donner un autre volet. Tous ces livres-là ont des approches complètement différentes.
OK.
Mais on me semble qu'on n'a rien lu quand on lit ça. Après ça, on dit oui, c'est parfait, on le prend un autre. Mais non, je n'ai pas lu ça de même. Je n'ai pas lu ça de cette manière-là. Ça s'est fait comme ça. Et vous savez qu'en Égypte ancienne, le chat était un objet de véritable de culte.
Culte, absolument.
Et on en parle. On en parle beaucoup, beaucoup.
D'accord,
beaucoup.
D'accord.
Et si mes chats était compté, ça, c'était avec...
Un petit clin d'œil à Sacha Guitry, d'ailleurs.
Comment est-ce qu'on prononce ça? Markiewicz.
Makarevich.
M-A-K-A-R-E-W-I-C-Z.
À mon avis, c'est Makarevich. C'est ça.
Bon.
Voilà.
Histoire de vrais chats.
Ah!
Des vraies histoires de chats, là.
OK.
C'est pas des histoires... C'est des vraies histoires de chats. Et c'est très, très important. Je vais simplement... qu'est-ce que je voulais dire, non? Il faut que je m'empêche, parce que le temps court. Si mes chats m'ont OK. Et je finis avec mon choix.
Oui, vous.
C'est la sagesse des chats.
C'est vraiment celui que vous préférez.
Oui, la sagesse des chats. Et je pense qu'on peut prendre beaucoup de plaisir. Si vous voulez en lire un qu'un, lisez celui-là.
Ah, oh!
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est l'heure de la collation?
C'est bien facile. C'est là que je dois aller absolument nourrir mes chats.
Ah ben oui.
C'est ça.
Oui,
on ne comprend pas ce qui se passe là.
Vous savez que j'ai avec moi aujourd'hui Pascal, mon petit, que
vous écoutez
connaître.
Religieusement. C'est formidable.
Ah bon, ça me fait plaisir. Je vais fermer ça. Savez-vous pourquoi ça chante de même dans mon ordinateur?
Non.
C'est que j'ai mis le timer pour avoir mon 5 minutes.
Alors, je vous dis que... Moi aussi.
Je salue tous vos auditeurs. Je leur dis, s'ils passent par Drummondville, qu'ils viennent me voir, parce que j'en cours beaucoup, beaucoup de petites tomates à leur donner. Et les chats n'en mangent pas.
D'accord. Merci, Gérard. Je vous adore.
Salut.
Il y a des nouveaux livres qui s'en viennent. Là. C'est merveilleux. J'ai entendu parler de ça. On en parlera. Et dans 15 jours, on va parler des 50 meilleurs romans policiers, mais anciens.
Je vais vous donner l'heure entière. Premières. D'accord. Je vous embrasse, Gérard.
Bye-bye.
Au revoir. ça sonne un petit peu rétro, un petit peu vieillot. C'est parce que je vous propose à chaque semaine une espèce de bande-annonce. Et aujourd'hui, sur la bande-annonce, d'ailleurs, j'ai même un petit extrait, mais je suis pas sûre. Non, on l'a peut-être pas préparé, mais de toute façon, peu importe, c'est pas grave, parce que c'est bien rare que j'utilise les quatrièmes de couverture. Juste, par contre, pour ces chroniques-là. La semaine prochaine, je reçois Louise Dupré, oui. Qui a écrit, entre autres, elle dit oui, Pascal, hein, qui a entre autres écrit l'album Multicolore, qui est un livre qui a touché énormément de gens. Un livre qu'elle a écrit suite à la disparition de sa maman. C'est un livre très, très, très touchant. J'avais très hâte de la recevoir. Madame Dupré, qui est quand même l'auteur d'une vingtaine de livres, dont La Mémoria, La Voie lactée. Elle a écrit aussi Plus haut que les flammes. Et puis, elle a même eu un texte qui s'appelle Tout comme elle, qui avait été mis en scène au théâtre par Brigitte Atkins, je pense. Hein, c'est ça. C'était en 2006. Et il faut savoir que Louise Dupré, ses écrits ont été maintes fois récompensés, notamment par le prix Ringuet et par le prix du gouverneur général. Alors, c'est pas la moitié d'une invitée aussi que je vais retrouver, parce que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du festival littéraire Métropolis Bleu. Juste un petit extrait de ce livre pour vous donner une idée. L'album Multicolore, écrit par Louise Dupré. Elle dépose sur la table une boîte de chocolat Laura Secor, remplie de photos. Elle veut me montrer Émilie dans sa longue robe noire, une robe de religieuse que sa grand-mère avait revêtue dès l'âge de 30 ans. Elle rit, l'âge où les femmes devenaient vieilles. Je calcule, Émilie est morte à 93 ans, elle s'est sentie vieille pendant plus de 60 ans, j'en frémis. Soudain, comme si elle venait d'avoir une illumination, elle se lève, se dirige à petits pas vers sa chambre. Elle revient aussitôt, avec 3 albums, tout neufs. J'ai décidé de vous remettre à chacun les photos de votre enfance. Le moment est venu. Le cœur me serre, je comprends bien ce qu'elle veut dire. Elle me tend un album à la couverture multicolore, tout en dégradé. Des teintes claires ou sombres, joyeuses ou sérieuses, audacieuses ou discrètes. Comme elle, ma mère. C'est pour toi, dit-elle simplement. Alors voilà, quelques mois après la mort de sa mère, Louise Dupré entreprend ce récit de deuil pour tenter de saisir qui était la femme qu'elle a appelée maman. C'est un livre qui se lit passionnément et j'ai tellement hâte de retrouver Louise Dupré. Pour l'instant, je vais me tourner vers Pascal, mon petit. Alors Pascal, mon petit, vous êtes arrivé de bonne heure. Du coup, vous avez assisté à toute l'émission, à toutes ces rencontres. Et...
Silencieusement, je buvais vos paroles et celles des autres.
Pascal, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu envie de vous inviter parce que dans quelques jours, vous allez participer au Festival international de littérature.
Oui.
Où vous allez faire de la lecture.
Absolument.
Et je me suis dit, oh, je vais tout de suite aller vérifier si le livre qu'elle va lire a été enregistré et il l'a été. Alors, je vous laisse le soin de nous le présenter.
Alors, c'est un roman écrit par Jacques Poulain qui en a écrit 14 à ce jour. Et pour faire un lien avec votre entretien précédent, c'est un amoureux absolu des chats. Il y a des chats dans tous ses romans. C'est des personnages principaux de ses romans. Son livre qui a été le plus primé, là, qui a reçu tous les prix possibles et impossibles, s'appelle Le Vieux Chagrin. Et c'est le nom d'un chat qui s'appelle Le Vieux Chagrin. Donc, le thème... Cette année, au Festival international de littérature, c'est la bibliothèque.
Ouais.
Alors, j'ai proposé à Michèle Corbeil, la directrice du festival, la tournée d'automne de Jacques Poulain, parce que c'est l'histoire d'un chauffeur de bibliobus. On n'a pas ça au Québec, mais en Europe, ça existe beaucoup. J'en ai déjà vu en Suisse. C'est des autobus, le format d'un autobus scolaire qui fait bibliothèque en même temps, qui se promène de village en village. Alors, on suit dans cette tournée d'automne un chauffeur qui fait tout son périple jusqu'au bout de la Côte-Nord. Alors, c'est à la fois un voyage à travers la littérature, parce qu'il évoque beaucoup de livres, il les nomme, des livres québécois et d'ailleurs. Et c'est aussi un voyage, évidemment, géographique, parce qu'on, puisqu'on parcourt le territoire.
Ouais.
Et il tombe amoureux d'une femme... Alors, c'est aussi un roman intimiste, parce que Jacques Poulain, c'est toujours... c'est pas le grand déploiement, là. Il y a seulement quelques personnages. Mm-hmm. C'est très,
mm-hmm. Oui, parce que c'est aussi un voyage de rencontre.
Oui.
Ce sera pas la seule femme qu'il va rencontrer non. pendant ce voyage-là, mais tous les personnages aussi qu'il rencontre ont leur importance.
Oui, c'est dans chaque village, on rencontre le chef de réseau, qui est l'espèce de responsable des livres, et toute la clientèle. Alors, ça peut être tantôt un pêcheur qui débarque en botte de caoutchouc. D'autres fois, la bibliothèque roulante devient le
lieu de rencontre.
Oui, c'est ça.
Vous allez le lire quoi, en trois fois, quatre fois?
Cinq midi. De midi à 1h, à 13h, à la Maison des écrivains au Carré Saint-Louis. C'est pour une quinzaine de personnes.
À Montréal, donc, oui, bien
oui,
sûr.
Oui, pardon.
Non, c'est pas grave.
Les gens apportent leur boîte à lunch. Alors, en toute simplicité, comme ça. Alors, moi, je lis pendant l'heure du lunch, puis les gens vont...
Vous allez prendre des extraits, parce qu'en 5 heures, vous n'aurez peut-être...
Je fais des grosses coupures avec la permission de l'auteur.
OK, d'accord.
Mais ça se passe assez bien, quand même. C'est pas un roman policier. Là, on peut sauter un village de temps en temps. C'est pas trop grave.
Et j'aimerais que vous nous en lisiez. Prenez votre temps. Ici, on est là surtout pour célébrer la lecture et les livres. Alors, j'aimerais que vous nous en lisiez un extrait de ce... Je voudrais rappeler qu'on parle là de la tournée d'automne de Jacques Poulain, un extrait qui va vous être lu par Pascal Monpetit.
Je commence avec le début du roman pour pas avoir besoin de mettre en contexte. Tout est beau de toute façon. Alors, chapitre 1, la fanfare. Il ouvrit la fenêtre pour mieux entendre la musique. C'était une petite musique de fanfare avec des cuivres et des tambours. Il se pencha au dehors, mais elle venait de l'autre bout de la terrasse du frein. Comme le temps était beau, il décida d'aller voir. De loin, il vit un attroupement devant le château Frontenac. La fanfare comprenait une poignée de musiciens, mais aussi des jongleurs, des clowns, une chanteuse et un chien noir. La chanteuse terminait une chanson. Il ne put s'empêcher de sourire, c'était la Java bleue. Les spectateurs reprenaient le refrain. Il y eut des applaudissements et la chanteuse, qui portait une longue robe verte avec des paillettes dorées, s'inclina comiquement. Puis, les musiciens rangèrent leurs instruments et allèrent s'appuyer au garde-fou de la terrasse. Il se mit à côté d'eux pour entendre ce qu'ils disaient. Ils étaient venus de France à l'invitation du festival d'été. Ils devaient être là depuis quelques jours car ils avaient l'air de bien connaître la grande baie qui s'étendait devant eux, avec la rive sud, la côte de Beauport, l'île d'Orléans que le fleuve tenait dans ses bras et les montagnes de Charlevoix, très loin à l'horizon. Ils ne cachaient pas leur admiration devant l'immensité du paysage. Du coin de l'œil, il nota que la personne accoudée au garde-fou à sa droite était une femme. Elle portait un t-shirt blanc et des jeans d'un bleu ni trop pâle ni trop foncé, exactement comme il les aimait. Elle se tourna vers lui. « La vue est superbe, » dit-elle avec chaleur. Elle avait une petite voix un peu cassée. « C'est vrai, » dit-il. « Je pensais que le Rhône était un gros fleuve, mais ici, c'est beaucoup plus large. »« Vous habitez dans la vallée du Rhône ?»« Tout près, à côté de la petite ville de Tournon, vous connaissez ?» Il fit signe que oui. La femme s'approcha. Elle avait des cheveux gris et frisés et un visage osseux comme celui de Catherine Hepburn. Un mélange de douceur et de force. « Vous êtes avec la fanfare ?» « Oui, mais je ne suis pas musicienne. Je m'occupe des engagements, des réservations et de tous les détails matériels. »« Je m'appelle Marie, » dit-elle. Il toussa pour s'éclaircir la voix. « Moi, les gens m'appellent le chauffeur. J'ai un camion avec des livres, un bibliobus. Mon travail consiste à prêter des livres. Je visite les petits villages entre Québec et la Côte-Nord. C'est un grand territoire. Je fais une tournée au printemps, une durant l'été et une à l'automne. » Il eut du mal à prononcer le dernier mot et son visage s'assombrit. On va s'arrêter là.
On en aurait pris encore, encore et encore. Lorsqu'on est comédienne, Pascal, et qu'on fait de la lecture comme ça, à voix haute, est-ce que c'est un exercice qui vous plaît, que vous avez l'habitude de faire?
Absolument. Et franchement, si je pouvais ne faire que ça, je vous jure, je ne peux pas être plus sincère que ça, je ne ferais que ça.
Ah, ouais.
Mon physique m'encombre, mon corps m'encombre pour faire croire à la réalité de personnages multiples, tout ça. J'adore ça, pouvoir devenir une petite fille ou devenir une grand-mère ou un homme sans limite physique.
Est-ce que ça s'enseigne, la lecture, dans les cours de théâtre?
Ou la diction, une espèce de diction normative, et puis une pause de voix. Bon, mais ça dépend de l'intérêt de chacun. Moi, je pense que je suis allée au théâtre parce que j'aimais la littérature. J'ai commencé un cours à l'université en littérature, et puis j'ai bifurqué vers le théâtre, mais c'est mon amour pour les mots qui m'a conduit au théâtre. Alors,
en premier.
C'est ça. Puis j'aime beaucoup lire dans la vie. C'est ce qui m'occupe le plus.
Les gens qui aiment lire, on dit souvent, en tout cas, que les gens qui aiment lire, un jour ou l'autre, finissent par écrire. Est-ce que Pascal Montpetit, un jour, va...
C'est drôle que vous parliez de ça, parce que la fin de semaine prochaine, après avoir lu une vingtaine de livres sur comment écrire un roman, comment se décider à écrire un roman, etc. J'en ai tout un rayonnage. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture la semaine prochaine.
C'est vrai!
Avec une auteure qui s'appelle Sylvie Massicotte.
Oui, je la connais.
Alors, voilà. Je vais passer 3 jours avec elle et d'autres.
Ah, vous allez passer un très, très bon moment. Ouais. Moi, ça, j'en ai fait plusieurs, des ateliers d'écriture. Et c'est quelque chose que j'adore. Et on se révèle beaucoup. Parce que vous allez voir, si on va vous dire, laissez-vous aller, oubliez le style. Et là, vous allez...
C'est ça qui me fait peur.
Non. Faites-vous confiance avec le vécu que vous avez, avec le sens de la lecture, avec le sens du rythme des mots que vous avez, Pascal Montpetit, faites-vous confiance. Je suis convaincue que ça va très bien se passer. Sinon, l'actualité de Pascal Montpetit en dehors du Festival international de littérature...
Écoutez, je suis vraiment dans les livres parce que, à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y a une soirée organisée autour de Pablo Neruda. Oui. Alors, je vais lire quelques textes de Pablo Neruda.
Oh, wow.
Toujours en septembre. Et puis, en novembre, c'est l'ouverture de la Maison de la littérature à Québec, qui est annexe à l'Institut canadien. Et je vais lire intégralement un autre livre de Jacques Poulain, Le Vieux Chagrin.
Oui, que nous avons aussi.
De bout en bout.
Ah, de bout en bout.
Ouais.
Quel bonheur.
Alors, je suis dans les livres là, en ce moment.
Eh bien, alors, vous devriez revenir à tout prix pour lire des livres chez Vues et Voix afin que nos auditeurs puissent profiter de votre belle voix et de votre diction absolument parfaite. Il n'y a rien à dire. Tout y est, les liaisons, c'est somptueux. Pascal Montpetit, moi, il n'y aurait que moi, mais je vous dirais, mais venez faire une chronique.
Clotilde!
Allez, hop!
C'est toujours un plaisir de se voir.
Vraiment, 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 vraiment. Je rappelle le titre du livre que vous allez lire à compter du 28 septembre prochain à la Maison des écrivains au Carré Saint-Louis à Montréal. C'est de Jacques Poulain et ça s'appelle La tournée d'automne. Et c'est donc sa lectrice Pascal Montpetit qui est passée par le studio de Canal M pour venir nous voir à l'émission Des livres plein les oreilles. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
À très bientôt.
Et comme on a beaucoup parlé de chats, je me suis dit que pour mes titres en rafale, surtout que je vous jure que c'est vrai, dans la liste des nouveautés audio adaptées, il y a 2 livres sur les chats. C'est tombé comme ça. Je me suis dit, oh! D'abord, de Joël Dehas. Joël Dehas est un comportementaliste belge d'origine. Moi, je savais qu'il écrivait beaucoup sur les chiens parce que je pensais d'ailleurs qu'il n'était spécialiste que de cela. Mais non! Il est aussi spécialiste des chats. Et donc, d'ailleurs, il le dit, oui, le chat est une énigme. Et oui, on peut éduquer un chat. Alors, si vous avez un chat et que vous êtes absolument tanné, qu'il vous laboure les divans et les fauteuils et qu'il laisse des poils sur le lit et tout ça, eh bien, pourquoi ne pas vous procurer l'éducation du chat de Joël Dehas. Je vous rappelle que c'est disponible et c'est via le SQLA, donc via BANQ. Et j'en ai un autre ici, entre les mains. Ça s'appelle « Le chat et l'enfant qui ne parlait pas ». Il s'agit en fait d'un témoignage. C'est la formidable histoire d'un petit garçon autiste avec un chat. Et c'est un petit garçon qui n'a jamais parlé, je pense, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à un moment donné, sa maman entend le petit garçon dire « Je t'aime ».
Et la maman se tourne. Et d'abord, elle était sûre que c'était pour elle. Mais non, c'était pour le chat de la maison. Et ce gamin autiste, grâce au chat et grâce à la présence, finalement, il va développer une relation avec le chat qui va faire en sorte qu'il va énormément améliorer son s'ouvrir au monde, s'exprimer, en tout cas caresser et surtout s'exprimer auprès des autres. Mais son aventure commence avec les chats. Le chat et l'enfant qui ne parlait pas, c'est également accessible via SQLA. C'est de Jane Dillon, ça s'écrit D-I-L-L-O-N. Le prix Goncourt est enfin disponible via également SQLA, le prix Goncourt 2014 qui s'intitule « Pas pleurer » de Lydie Salvaire, Salvaire S-A-L-V-A-Y-R-E. C'est un roman un peu complexe mais qui se lit très très bien malgré tout. Ce sont deux voix entrelacées, celle révoltée de Bernanos, témoin direct de la guerre civile en Espagne, qui dénonce la terreur exercée par les nationaux avec la bénédiction de l'Église contre les mauvais pauvres. Et puis il y a l'autre voix, c'est celle de Montse, la mère de la narratrice, qui est ce qu'on pourrait appeler une mauvaise pauvre, qui a tout gommé de sa mémoire. Et donc, c'est le récit de ces deux personnes-là. C'est vraiment excellent. C'est de Lydie Salvaire, « Pas pleurer ». C'est le titre de son roman. J'avais d'autres... Oui, si vous aimez les gros bouquins, la suite du livre de Ken Follett, vous savez, en ce moment, lui, à chaque fois qu'il écrit, ça prend toujours 1000 pages. C'est le dernier tome... c'est le siècle 3 aux portes de l'éternité de Ken Follett. Ça y est, maintenant c'est aussi disponible et il me reste à peu près quoi, 10 secondes pour 25 secondes. Oh, alors j'ai tout mon temps, mais j'ai tout mon temps pour remercier Pascal, mon petit.
Êtes-vous plutôt chien ou chat?
Chien.
Ah,
chien.
Bon.
Merci à Mylène Moisan également à Québec. Merci à Jean-Daniel Aubin et merci à Gérard Saint-Denis et à Mathieu Tessier qui était dans son aquarium. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.